des personnes attachées, des personnes attachantes.
Oui, et bien, ça, sans plus attendre, c'est vrai qu'humainement, c'est, ah oui, c'est très fort. Une aventure et une ambiance. Alors, effectivement, on va parler un peu d'avenir. Donc, je vais. On a choisi un thème avant le champagne qui s'appelle en fait la durabilité, valeur d'avenir. Hein, parce qu'il faudrait peut-être s'en rappeler un peu. Ami, est-ce que tu veux revenir avec nous, s'il te plaît? Voilà. Amélie, Antoine et Gilles. Où il est Gilles? Il est là, voilà. Tiens, viens à côté de moi. Alors, voilà, ils se sont dit bonjour. Bon. Figurez-vous, je vais quand même vous raconter une petite histoire, hein, ça, si j'ai encore une seconde. Le hasard de la vie fait que Amélie, je l'ai connue à 8 ans. Voilà, c'est quand même amusant. Amélie, voilà, pour des croisements entre des familles, amis, etc. Donc, c'est assez émouvant tout ça. Alors, pourquoi on a dit valeur de la durabilité ? Parce que nous vivons, alors ça s'appelle, paraît-il, le backlash, mais enfin, on vit une sale époque en matière environnement. Moi, au début de ce backlash, je me disais que on avait connu des époques comme ça, c'est-à-dire des époques où finalement l'environnement était fustigé, moins à la mode, qu'il y avait d'autres priorités. À ce point, je n'aurais pas cru, avec le recul que j'ai, vivre cela. Et donc, ce soir, on va faire le contraire. Et toi, Antoine, qui a vraiment porté à Matignon justement cette valeur d'avenir qu'est la planification, je voudrais que tu nous dises vraiment. Pourquoi, à ton avis, la durabilité est une valeur d'avenir? Comment cette planification continue à se déployer, en particulier dans les territoires? Et puis, à chacun, puisque ça ne va pas être très long, parce que je sais que vous avez envie de boire un petit peu, je demanderai à la fin, quelle est votre recette pour combattre cela?
Bien, merci beaucoup, Bettina. Bonjour à toutes et à tous, c'est vraiment ravi d'être parmi vous. Je commence du coup par m'associer à un joyeux anniversaire, du coup, parce que je pense que c'est important, je pense qu'il faut partager aussi les bonnes nouvelles. Et je pense que comme ça a été dit depuis le début de la soirée, c'est un travail d'équipe très très fort, tout ce qui a été fait par le comité 21. Et ça, dans la période que l'on vit, tu l'as rappelé, et ce backlash, c'est extrêmement précieux. Et donc tout ce qui va être de déciloter, tout ce qui va être de dégager toutes les énergies, parce qu'en réalité, pour y arriver, personne ne peut se planquer. Je pense que ça, c'est un travail, à la fois une conclusion des travaux de planification écologique un peu évidente, mais qui mérite d'être rappelée et qui est aussi, je pense, une conviction très forte du comité 21, c'est qu'on a besoin de tout le monde, des entreprises, des collectivités, du tissu associatif, de l'ensemble des acteurs, et qu'au final, plein de choses existent et qu'il faut déployer, il faut massifier, il faut entraîner. Et ça, c'est extrêmement important. Donc ça, c'est le côté sur lequel on peut se réjouir, parce que je pense que dans cet univers-là, montrer qu'il y a 30 ans d'existence, c'est quand même une preuve qu'on construit des choses extrêmement solides. Je pense qu'on peut être tous frappés par la vitesse avec laquelle, dans les derniers mois, beaucoup de choses se sont détricotées ou sont en train de se détricoter, et sur lesquelles, quand on a des points fixes, des points stables, et je pense que le comité 21 en fait partie, c'est extrêmement important de s'appuyer dessus. Alors, une fois qu'on a dit ça, je pense que moi, je fais partie de ceux qui sont qui du coup quelque part font face dans ce qu'on voit là. Je pense qu'on est très nombreux à le faire ici, et on se dit comment est-ce qu'on se mobilise et en quoi finalement les valeurs qu'on partage sont des valeurs d'avenir et vont faire en sorte qu'on va continuer à se battre, à transformer, à réussir et à aller de l'avant. Donc les convictions, je pense, finalement assez fortes que l'on partage entre le comité 21 et ce qu'était mon ancienne casquette et ce qu'est ma conviction personnelle finalement dans tout ça sur la planification écologique, c'est que d'une part on est sur un sujet, des sujets qui sont extrêmement très structurants pour notre avenir collectif et individuel. Quand on parle du coup de transition, on voit, et puis surtout après la COP là, qui vient de se terminer, plein d'oiseaux de mauvaise augure qui nous disent finalement, puisque rien ne bouge, etc., à quoi bon ? Bon, très, très, très concrètement, dans le monde qui est en train de se réchauffer, je pense que le comité 21 a beaucoup travaillé sur l'adaptation, Ce qui est assez évident, mais ça mérite quand même de le dire explicitement, c'est que accélérer la transition, c'est finalement se donner les gages d'avoir une vie meilleure demain pour chacun d'entre nous. Et ça, c'est une valeur, je pense, qui est extrêmement forte. Et quand je parle de ça, c'est un enjeu de notre santé, de santé publique. Je pense que le sujet, vous l'avez dit, le comité 21 a été précurseur dans plein de domaines. Il l'a été aussi en matière d'adaptation. Et peut-être qu'une frontière de demain, c'est aussi de remettre sur la table ce sujet de la santé. Parce que finalement, réussir cette transition dans un monde qui se réchauffe, c'est aussi avoir en matière de pollution, en matière de santé individuelle, en matière de santé publique, avoir énormément de co-bénéfices et qui touchent chacun d'entre nous. Et dans une période où tout est un peu remis en cause, ça, c'est des choses qui restent et qui font mouche et qui font écho, je pense, chez l'ensemble de nos concitoyens. Deuxièmement, c'est aussi une valeur de souveraineté dans le monde d'aujourd'hui. Ce mot-là, alors utilisé un peu dans tous les sens, et parfois à tort et à travers, mais aussi dans le bon sens. Un monde sur lequel, un monde qui se réchauffe, un monde qui se transforme, c'est aussi un monde aussi où les relations internationales sont de plus en plus difficiles, conflictuelles, violentes. Réussir cette transition, être économe de ressources, on a parlé de sobriété précédemment, mais cette transformation, alors que c'est les énergies fossiles, mais c'est plein d'autres choses, l'accès à l'eau, c'est aussi l'accès aux matériaux, etc., est une condition de notre survie, j'ose le mot du coup individuel et collectif, notre survie économique. C'est pour ça que du coup les entreprises au premier rang doivent être extrêmement moteurs dans cela, parce qu'en réalité sinon c'est des dépendances économiques qui vont nous tuer. Et puis dernier élément, on parle de valeurs d'avenir. Moi, je suis intimement convaincu que dans tout ce que l'on se dit, ce qui a été dit ce soir, on a les composantes, les ferments d'un pacte social un peu renouvelé dans une société très, très désunie, ou en tout cas avec beaucoup de tensions qui sont de plus en plus nombreuses. Finalement, ces sujets de transition, ces sujets de développement durable, c'est de durabilité in fine, c'est quand même ça qui va faire en sorte que, on a des facteurs qui vont nous permettre de travailler ensemble sur un projet qui dépasse les inégalités, qui est des facteurs de, dit très trivialement, l'effort il doit être collectif et l'effort il ne peut pas être le même partout, et d'arriver à mettre noir sur blanc, et je pense que c'est l'occasion, si tu veux, de transition, de voir qu'il y en a des plus gros qui font plus, des plus petits qui font moins, mais qui contribuent quand même. C'est un élément essentiel du pacte social. Et je terminerai par un élément, c'est aussi dans un monde qui se réchauffe, c'est un monde aussi où il y a beaucoup plus de contraintes, et on va devoir transformer la façon dont on définit nos règles d'allocation de nos ressources rares, dont on définit aussi nos règles d'allocation des contraintes. Et donc, j'en ai un exemple très simple, hein, du coup, ça se réchauffe, il y a moins d'eau à un moment donné. Là où on avait des comités de bassin, pour un exemple très concret, qui du coup avaient un rôle pas facile, mais néanmoins avec une ressource qui était quand même relativement abondante, eh bien, on va voir que le travail de demain, et donc le travail démocratique aussi, et qui est très local, il va devoir forcément dépasser des clivages et des tensions beaucoup plus fortes. Et donc à la fin, c'est bien d'avancer au niveau international, au niveau national, et c'est indispensable, mais beaucoup de choses vont se jouer au niveau très local. Et donc je pense que je terminerai là-dessus. Le travail et le virage du comité 21, même s'il y a toujours eu une dimension territoriale très forte, mais de dire on devient un outil encore plus demain qu'aujourd'hui d'action au niveau local, et qui fait tout le travail de faire converger les forces sur du très concret et du très local, il est absolument indispensable.
Alors, Gilles, je ne t'ai jamais connu pessimiste depuis tout le temps qu'on se connaît. Voilà, oui, mais je suis taquine. Donc, la durabilité, qu'est-ce que tu en penses? Toi, vous rentrez tous les deux d'ailleurs, hein, ami et toi de Bélème. Qu'est-ce que tu penses de cette ambiance un peu délétère, de anti-science, etc.? Et qu'est-ce que tu offres pour lutter contre cela?
Merci. D'abord, mon dada, c'est plutôt la jeunesse. Et dans cette jeunesse qui n'est pas si mobilisée que ça, il y a une très bonne nouvelle, c'est que ceux qui sont très mobilisés sont finalement assez puissants et ils sont indispensables au dialogue des parties prenantes. Parce que nos boîtes ne bougeraient pas autant que ça, les États non plus d'ailleurs, s'il n'y avait pas ce dialogue de parties prenantes et parfois des controverses. sans controverse, aucune des entreprises ne serait où elle est aujourd'hui lorsqu'elle s'engage sur le développement durable. Elles ne sont pas suffisantes pour faire bouger tout le monde, mais elles sont indispensables pour faire bouger les uns et les autres. Ma deuxième partie de réponse, c'est que probablement qu'un certain nombre d'entre vous, vous allez passer sur le pont Alexandre III, tout près d'ici, pour rentrer chez vous. Alors, ceux qui le font, vous regarderez aux quatre coins du pont, il y a marqué Groupe Schneider Electric. Pas électrique, il y a marqué Groupe Schneider. C'est vachement important.
Il est bon quand même. Hein.
C'est vachement important. Parce que cette boîte qui a fait le pont Alexandre III, si après vous visitez son site internet du moment, sa raison d'être, c'est d'être votre partenaire technique pour la décarbonation. C'est-à-dire que le mot central, c'est quand même l'innovation. Cette boîte, qui aujourd'hui a une capitalisation plus forte que Total Energy dans le CAC 40, juste derrière les trois du luxe, ne l'a que parce que c'est un acteur de décarbonation. Elle était quasiment morte il y a 25 ans. Parce que son matériel électrique était copié par le monde entier et que probablement, vendue plus cher parce que française, elle n'avait pas beaucoup d'espoir d'aller plus loin. On a su inventer plein de choses pour faire déjà un bout de chemin. Qui aurait parlé de l'effacement avant ? Qui parlait de l'intégration des énergies renouvelables dans le réseau électrique ? L'AIE publie que 90% des nouvelles productions énergétique de l'an dernier était électrique et verte. Alors après, on va pas se gardons la tendance. Et si vous trouvez que 90 c'est trop, partez sur 75 ou 80. C'est déjà immense. Et donc moi, je crois que il y a un backlash probablement sur des démarches qui sont faites à l'encontre de la théorie du comité 21, c'est-à-dire sans dialogue de parties prenantes. Et imposer à des acteurs qui considèrent que ça ne les fait pas progresser. Et malheureusement, quand on est dans cette démarche-là, on mélange peut-être parfois le bébé avec l'eau du bain. Mais pour ce qui est du côté de l'innovation, je pense qu'il y a des entreprises qui aujourd'hui mettent sur le marché les solutions qui permettent aux collectivités qui veulent se déplacer, s'organiser, construire différemment de la ville, mais de la même manière aux entreprises, de la même manière chez vous et chez moi, des solutions qui nous font avancer. Est-ce que c'est suffisant ? Certainement pas. Est-ce que c'est une source d'optimisme ? Certainement. Et aujourd'hui, il faut à tout prix qu'on passe de régulations fatigantes qui font beaucoup vivre les auditeurs, mais pas beaucoup changer les produits, pour bien mesurer ce que c'est que l'innovation. Et préférer regarder produit par produit ce qui nous emmène vers le futur que des analyses historiques sur les entreprises qui probablement n'auront pas beaucoup de conséquences. Donc oui, je suis optimiste. Oui, je pense que la durabilité a une valeur d'avenir. Probablement encore plus si on sait former les gens aux enjeux de demain et qu'il n'y a pas un petit paquet de spécialistes qui pensent pour les autres. Mais quand on aura embarqué les populations, probablement qu'on ira dans ce sens-là. Je reviens sur les jeunes, c'est le sujet central. Il y a un immense sujet qui pourrait encore plus faire un lien entre Climate Change et le comité 21. Dans le siècle qui vient, la moitié des naissances sont africaines. Il y a quand même là une question sur laquelle on dépasse un peu l'adaptation et l'atténuation, ou plutôt on embarque ces deux sujets sur un sujet précis qui est l'Afrique. La moitié des naissances du siècle qui vient, on ne peut pas s'en désintéresser comme on s'en désintéresse aujourd'hui. Mais je suis optimiste parce qu'on va tous y penser.
Merci. Amélie a fait un parcours extrêmement intéressant. Elle est passée de Veolia à la philosophie. Pour que je sois un tout petit peu peut-être rapide ce que je dis, mais surtout à l'anime, personnellement je veux dire Ecosofia, c'est ça, mais elle fait partie de quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le GIECO, Et en fait, c'est le GIEC de l'humanité, un petit peu, entre guillemets. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que même si dans les conférences, dans les préambules des conférences, on dit l'humanité, etc., etc., on n'en parlait pas trop parce qu'il y a à peu près 15 ans, c'était vraiment la planète, etc. Et puis peu à peu, au fur et à mesure d'ailleurs que le danger monte, on se rend compte, comme tu l'as dit d'ailleurs, hein, avec les problèmes de santé, etc., que certes, dans toutes les espèces qui sont certes menacées, il y a aussi cette espèce incroyable, mais alors très très méchante, qui est responsable, etc., mais enfin, qui est quand même proche de nous, c'est l'homme, l'humanité et tout. Et vous faites un travail formidable, justement, pour revenir à ce sens humain. Et j'aimerais beaucoup que tu nous en dises un mot, parce que par rapport à la durabilité, je trouve que c'est peut-être ça, le sens de l'humain ou le bien commun de l'humanité, hein, pour prendre un thème qui m'est cher, comme à d'autres ici, Charles Benoît, etc. Je pense que c'est peut-être autour de ça qu'on peut retricoter un tout petit peu de concorde.
Merci Bettina. Ça fait 21 ans que j'œuvre dans le développement durable et j'ai justement commencé ici au Comité 21 en 2004. Et depuis lors, j'ai une question qui me taraude et que je partage avec vous ce soir, qui est: pourquoi n'arrivons-nous pas à faire cette bascule de société, de transition sociale et écologique, alors qu'on sait depuis 50 ans qu'on va dans le mur ? 1972, le rapport Club de Rome, limite à la croissance. Eh bien, parce que pour changer le modèle économique, et au fond c'est ça qui est en jeu, hein, lever les freins au changement ne sont pas tant technologiques, globalement on connaît les solutions, c'est leur mise en œuvre, ni financiers, il n'y a jamais eu autant d'argent, mais il est mal fléché, il n'est pas dans les bonnes mains. Et donc, au fond, c'est vraiment un sujet de mise en œuvre, de compréhension des mécanismes, de facteurs humains. Et ça, c'est quelque chose qui est immatériel, qui est impalpable, donc pas évident. Les mécanismes de déni, les mécanismes de protection, de peur, de perdre du confort, les mécanismes, tous nos biais cognitifs, notre orientation au court terme, et la société joue avec ça, hein, sur ce court-termisme. Ce qui fait que quand il y a des sensibilisations avec des arguments qui nous disent l'ours polaire va mourir à cause de la fonte de la banquise, mais c'est très éloigné géographiquement de nous. Quand on nous dit cet objectif, tendance vers laquelle on va de plus 4 degrés de réchauffement à la fin du siècle, c'est éloigné temporellement. Et donc, ça fait qu'on a du mal à prendre notre responsabilité par cet éloignement. Rajoutez à cela que notre modèle de société, au fond, si on regarde la systémie, ne nous aide pas. Vous avez remarqué probablement qu'on vit quand même en absurdie. On est en permanence en dissonance cognitive. Sur des panneaux lumineux, on a des messages nous disant de réduire les éclairages, des publicités qui nous incitent à acheter des SUV, à partir en week-end à New York, et on a des fast-food à chaque coin de rue. Donc, notre société est au bord du burn-out. Et quand on dit que la responsabilité incombe aux grands groupes et à la finance, au fond, ce ne sont pas des coquilles vides, les grands groupes et la finance. Ce sont des hommes et des femmes qui prennent des décisions. Donc, c'est un sujet de facteur humain. Quand on parle de solutions de coopération dans les territoires, cette mise en œuvre-là, la coopération, c'est un sujet de facteur humain. Quand on parle de changer l'actionnariat, les pratiques des actionnaires, c'est un sujet de facteur humain. Et donc, c'est pour ça que le GIECO a été créé il y a quelques années. C'est le groupe international d'experts sur les changements de comportement. C'est une association créée à l'initiative du docteur Jacques Fradin, qui est pionnier lui également, puisqu'il avait fondé en 87 déjà l'Institut de médecine environnementale, l'IME, et qui regroupe 1 millier de chercheurs à l'international de 76 pays, dans 70 disciplines, de près ou de loin sur ce qui a trait aux sciences du comportement, et qui vise à analyser les moteurs de changement et fournir des pistes d'action, de levier pour les institutions, les entreprises, les citoyens au sens large, vraiment pour acculturer. Parce que investir sans comprendre ce qui freine et ce qui motive les comportements, ça ne fonctionne pas. Et le tout premier rapport scientifique là, du GIECO vient de paraître au mois de juin. C'est 400 pages en anglais pour l'instant, mais on travaille sur la version, la synthèse en français, vous inquiétez pas, elle va sortir très prochainement. Ça a été le fruit de 3 ans de travaux de 35 scientifiques issus de 6 pays et de 14 disciplines, qui a été coordonné par Stéphane Labranche, qui est sociologue du climat et qui a contribué au GIEC. Et il y a beaucoup d'enseignements dans ce premier rapport scientifique sur les mécanismes de financement, sur la pauvreté, sur l'éco-anxiété, sur la communication. Je vais vous en citer juste 3 éléments clés que je retiens pour vous donner envie de savoir plus, et parce que je n'ai pas le temps là, de développer. Premier élément, c'est que nous misons probablement sur ce qui n'est plus forcément les bons leviers, ou en tout cas qui n'est pas suffisant, à savoir les données chiffrées, un discours parfois très alarmiste et des campagnes de sensibilisation. Et ce n'est pas suffisant pour changer. Savoir ne suffit pas pour changer les comportements. Deuxième élément, les freins sont omniprésents. Ils sont à la fois individuels, collectifs, organisationnels, culturels. Et ils sont bien plus impactants que ce qu'on pense. Mais encore une fois, ils sont invisibles, c'est impalpable. Donc ce n'est pas évident. Et troisième et dernier élément, une autre approche est possible. Voir nos croyances, les normes sociales, nos émotions, tout ça sont des leviers, alors à la fois ça fait partie des freins, mais donc sont des leviers essentiels à actionner, rien que sur nos émotions, c'est encore un gros mot en entreprise. Au pays de Descartes, nous pensons des êtres rationnels, mais en fait nous sommes drivés d'abord, nous sommes des êtres émotionnels dotés de raison. Et pour conclure, un dernier élément, c'est qu'au fond, on vit une crise de déconnexion de notre rapport au vivant. On vit majoritairement en ville, globalement, entouré de béton. On n'est plus en lien avec les cycles biologiques. Et donc, ça veut dire qu'on a une moindre sensibilité au vivant, à la nature. Et donc, on est moins réceptif aux politiques proposées, globalement, et moins disposé à protéger le vivant. Et donc, je vous partage ma conviction profonde, qui est que une meilleure intégration du facteur humain et du vivant nous permettra de réussir cette transition écologique et sociale.
Merci. Merci, Amélie. Vous voyez ce que ça donne, de commencer sa carrière au comité 21. Voilà. Ami, on échange souvent, tu l'as très, très gentiment dit. Tu as un parcours assez tout à fait remarquable, mais alors tu es une mathématicienne. Et c'est toi, en fait, qui devrais nous parler de modèles, parce que c'est ça ta spécialité de départ, c'est les modèles mathématiques. Et donc, tu as écrit ce remarquable livre sur le climat. Je crois savoir qu'il y en a un qui arrive très, très bientôt. Et en écrivant ce livre, c'est-à-dire en écrivant finalement le bilan de ces 10 ans depuis l'accord de Paris, etc., je voudrais te demander comment tu n'as peut-être pas tout dit dans le livre. Donc, dis-nous ce que tu n'as pas dit dans le livre, c'est-à-dire comment tu regardes l'évolution de la durabilité et comment tu gardes, avec la pêche que tu as tout le temps, comment tu gardes, alors j'aime pas le mot optimiste, mais une espérance.
Bon, merci de m'avoir associée à cet événement, puisque je ne suis pas quand même très impliquée structurellement dans le comité 21.
Attends, tu ne sais pas la suite.
Oui, d'accord. Mais donc, effectivement, je suis passée des modèles mathématiques, d'abord mathématiques, puis du climat, etc., aux relations entre science et politique dans la question climatique et de la crise écologique. Et j'ai été amenée à suivre les COP. J'en ai suivi beaucoup, moi aussi, énormément. Depuis 2002, j'avais l'impression que voilà, c'était le problème du monde maintenant et qu'il fallait vraiment s'en saisir. Et j'ai eu l'occasion donc d'écrire ce gros bouquin en 2015, qui est paru 2 mois avant l'accord de Paris, qui s'appelle « Gouverner le climat, point d'interrogation », où je faisais... nous faisions, parce que c'était avec un de mes thésards, qui maintenant est professeur à Hambourg, et avec qui je publie le prochain livre, qui est pratiquement terminé, qui va sortir début de 2026, et qui s'appellera « Mutation climatique ». Si vous voulez, donc cette réflexion, elle a été d'abord comment ce problème... qui était de la durabilité, lié à la durabilité, mais qui était aussi le problème des relations science, nature et humain. J'ai beaucoup coopéré avec Bruno Latour, travaillé avec lui sur la question de régime climatique comme une expression qui concentre un peu cette nouvelle façon de l'homme sur la planète et dans la nature et ces questions. Alors, il y avait toutes les instances et les politiques qui sont derrière, mais il y avait aussi un aspect beaucoup plus profond et structurel de ce basculement que nous vivons. Mais je voudrais dire, et parce que c'est lié aussi à Belém et à ce que nous vivons aujourd'hui, c'est que nous sommes aussi dans un basculement géopolitique absolument majeur en ce moment, qui est dramatique, quand même absolument dramatique, évidemment ce qu'on sait de l'agression russe en Ukraine, mais ce qu'on sait aussi de la façon dont Trump lâche l'Europe et nous laisse. Il y a ce retour de bâton terrible qui n'est pas simplement sur la durabilité, mais aussi sur la démocratie et sur tout ça. Et on ne peut pas, je suis persuadée de cela, on ne pourra pas répondre à ces questions séparément. Nous devons les unir, nous devons les penser conjointement. C'était très fatigant, Belém, il faut bien le reconnaître. Je suis revenue au bout de 15 jours, mais absolument sur les rotules. Parce qu'il fallait tout suivre, parce que c'était énorme quand même. Et c'est vrai que c'est passionnant de voir cette fracture géopolitique à l'œuvre aujourd'hui. Quand on voit la façon dont, par exemple, l'Europe a été accusée d'être responsable de l'échec, entre guillemets, de Belém. Belém n'est d'ailleurs pas un échec ni une réussite parce qu'elle n'a pas vocation à véritablement changer le monde. Même l'accord de Paris, ça a été un pas en avant, ça a mis un certain nombre de choses mais ça a été beaucoup une gouvernance incantatoire, il faut bien le dire. C'est-à-dire, voilà, on avance, c'est bien, etc. Mais c'est pas. Mais de fait, le monde avance. De fait, le monde avance. Et aller à Belém, c'était aussi voir, par exemple, mesurer l'importance de la puissance chinoise, qui était majeure quand même là. Le plus grand pavillon du monde, des side events, des débats, des questions qu'il mettait sur le tapis, du matin au soir, suivi par des centaines de gens de tout pays, de toute nationalité. Et à côté de cela, l'Amérique, évidemment, n'est pas là du tout. Elle a déserté le champ de bataille, elle n'est pas là. Mais même l'Europe était extrêmement timide et timoreuse. Elle n'avait quasiment pas de pavillon, elle organisait rien. L'Allemagne a fait un débat sur l'Union européenne, l'Europe a fait un petit truc sur les forêts, mais la France, je veux dire. Mais sinon, très peu. Et ça, je trouve ça incroyable qu'on ne puisse pas... alors que quand même, il y avait 50 000 personnes. C'était la COP la plus colorée et métissée que j'ai jamais connue depuis 20 ans, 25 ans même, avec énormément de gens d'Amérique latine, du Brésil bien sûr, mais bien au-delà, et qui voulaient des choses. et qui voulaient des choses. Par exemple, il y a eu une coalition autour de la Colombie pour réinscrire la sortie des fossiles, parce qu'ils savent que eux, dans les 30 ans qui viennent, l'Arabie saoudite sera gagnante, mais eux, ils seront complètement perdants. Et bon, parce qu'il y a aussi cette cartographie des pays fossiles avec leurs intérêts différents. Il faut comprendre ça. Bon, alors, je suis désolée, ce n'est pas tout à fait peut-être ce dont on a parlé ici, mais quand même, je trouve que c'est très important de saisir les enjeux géopolitiques et comprendre aussi que, par exemple, le G77 plus Chine, cette fracture majeure qui existait entre les pays en développement et les pays développés, qui était celle qui a structuré le protocole de Kyoto, eh bien, aujourd'hui, ce groupe, il est lézardé par des failles énormes. Il y avait deux groupes là-dedans. À la fin, évidemment, on a rabiboché, il fallait signer, parce que c'est la règle du consensus. Mais il y avait ceux qui voulaient finalement ce qu'on appelle des likes, l'Inde, la Chine, les pays arabes, le groupe arabe et quelques autres. Et puis, de l'autre côté, l'Amérique latine, la coalition de l'Amérique latine, d'autres pays. Et voilà, c'est très majeur. Oui, je sais qu'il reste 3 minutes, donc je vais m'arrêter. Mais je veux dire par là que c'est très important aussi que l'Europe comprenne tout cela et avec qui elle va faire des alliances, avec qui elle va construire des choses. Quand les ONG, par exemple, aujourd'hui, accusent l'Europe d'avoir été à l'origine de l'échec, c'est un scandale pour moi. Parce que ce n'est pas vrai. Évidemment, l'Europe a été timorée, elle n'est pas venue conquérante, et l'Union européenne a donné son INDC, comme on dit, 3 jours avant le début de la COP, alors qu'elle aurait dû le donner 3 mois avant et être moteur, etc. Mais quand même, demander et évoquer le fait que dans le texte, il y a la sortie des fossiles, on parle de ça, c'est ce qui structure ce processus quand même. Eh bien, on trouve ça absolument incongru, incroyable. C'est une revendication totalement illégitime pour les ONG, y compris le CAC, le CAN international, etc., avec qui j'ai tellement d'amis depuis des années. Je ne comprends pas ça.
Mais tu dois être... Je vais t'interrompre, parce que c'est moi qui vais me faire... Donc tu dois être fâchée avec eux maintenant, les amis. Voilà. Alors, je pense qu'en t'entendant, on peut penser que tu ne réponds pas à la perche d'espérance que je t'ai tendue. Cependant, si on fait le résumé de ce que vous avez dit, je pense qu'on peut quand même faire une espèce de synthèse, si je retrouve mes anciennes formations. Innovation, d'abord, innovation et jeunesse. Viser vers l'avenir avec de plus en plus des considérations sociales autour de la santé, etc. Remettre au milieu du village, comme on dit aujourd'hui, parce que c'est l'expression qui revient, l'humanité, je veux dire, et surtout le facteur humain. Et quatrièmement, refondre tout ce qui est politique climatique avec cette nouvelle géopolitique. Et finalement, c'est quand même le génie de l'Europe. Alors, je ne sais pas si ça va continuer, mais c'est quand même le génie de l'Europe d'avoir, il y a 4 siècles, refondé, comment dirais-je, et moi, j'appelle beaucoup de mes voeux une nouvelle renaissance. Et si moi, j'avais juste quelque chose à ajouter, et je l'ai mis dans les propositions du rapport sur les nouveaux modèles, je pense qu'il faut absolument faire accepter par l'Europe et par la Constitution française le principe de non-régression. Si on avait constitutionnellement un principe de non-régression, il y a beaucoup de choses qui ne pourraient pas se passer et qui se sont passées depuis un an. Alors, je sais bien qu'il y a un petit débat démocratie et non-régression, mais on en a franchement franchi d'autres difficultés et je pense que ça serait fondamental. Voilà, madame. Merci à tous.
On va vous applaudir. Merci pour cette table ronde.